J'ai une passion pour les livres qui parlent de la gestion du temps. Je ne sais pas si c'est une passion qui est partagée ici, mais moi j'aime bien ça. J'en ai une douzaine dans ma bibliothèque quand même. Et chaque fois que j'en achète un, c'est que peut-être je ne sais plus très bien comment gérer mon commerce, mes affaires, mon temps, j'ai l'impression que j'en perds. Alors, j'en perds peut-être encore un peu plus en lisant ces livres, parce que je ferais peut-être mieux de faire autre chose. Ça n'empêche, mais je les lis avec plaisir, et ça me déstresse. Aller y comprendre quelque chose. Alors, évidemment, faire plus en moins de temps, éviter la tyrannie de l'urgent, avoir l'impression que j'ai fait quelque chose de valable dans ma journée. Ça, c'est important. Et puis, vous savez, quand on est à la retraite, on n'a plus une organisation du travail qui vous dit maintenant, hey, écoute, aujourd'hui, il y a ça, ça, ça à faire. Voilà, tu es responsable de telle et telle chose. On compte sur toi. Et là, ça marche, on fait les choses. Ou bien, quand j'étais enseignant, je ne choisissais pas si j'allais enseigner à telle classe à 9 h et à telle autre à 10 h et à telle autre à 11 h. Je devais être là et avoir préparé mes affaires pour le faire. Maintenant, c'est un peu différent. Mais dans toutes ces lectures, j'ai quand même retenu deux ou trois choses qui sont utiles et que je vous communique comme ça parce que peut-être ça peut vous rendre service. Par exemple, la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est, ah, j'ai telle et telle chose à faire. Est-ce que ça va prendre plus que 2 minutes? Ah oui, alors ben, il faut peut-être noter cette chose à faire pour la faire plus tard. Et si ça prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Immédiatement, règle ça en moins de 2 minutes. Après, c'est fini. Et puis, ce que j'ai aussi appris, c'est le pouvoir des listes. Des listes de tâches, par exemple, les to-do listes, comme ils disent en anglais. Parce que je lis pas mal de choses en anglais du fait que mes petits-enfants grandissent aux États-Unis et puis ils ne sont pas encore des as en français. Il faut s'exprimer dans la langue de Shakespeare, enfin de Shakespeare américain, mais ça. Le pouvoir des listes. Je me rends compte que quand je prends le matin, dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à faire, je le note et en général le soir, j'ai parcouru presque toute ma liste, c'est fait. Tandis que si j'en fais pas, j'arrive au soir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai même pas la liste de ce que je voulais faire pour me dire ça, j'ai pas fait. Donc, le pouvoir des listes. Et puis, dire, ben, tiens, dans cette liste, ça, en tout cas, ça, aujourd'hui, il faudrait l'avoir fait. Et ça m'aide à le faire. Tout le monde ne fonctionne pas comme moi. La personne qui m'est la plus proche ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. Non, mais elle est efficace aussi, hein. Alors bon, j'ai appris ces choses-là en lisant des livres sur la gestion du temps et sur la productivité. Bon, c'est bien. Au fond, mais c'est bien pourquoi. Quand on lit les titres de ces livres, c'est s'organiser pour réussir. Getting things done. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ah, moi aussi, je veux réussir tout ce que j'entreprends. Et ils disent, mais pour être efficace, on a besoin d'avoir une raison. On a besoin d'avoir un but, un objectif. Sinon, on y va au petit bonheur la chance, à la faveur des circonstances, selon les envies du moment. En revanche, si je sais quel est le sens de mon existence, pourquoi je suis sur Terre, même les gourous de la productivité, qui ne sont pas spécialement chrétiens, disent, on a besoin de se raccorder à des choses qui nous dépassent, à des valeurs plus importantes, comme l'honnêteté, la justice, la vérité. Et vous voyez que on croit commencer à lire quelque chose où on nous enseigne comment gérer notre temps, mais c'est porteur d'un certain nombre de valeurs Il y a de la philosophie là-dedans, il y a parfois même un peu de religion. Oui, il faut de la spiritualité, des valeurs très hautes, etc. Donc, il y a une philosophie implicite là-dedans. Et au fond, elle dit quoi, cette philosophie implicite? Eh bien, elle dit, il faut les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, la réussite. Je veux réussir, je veux avoir du succès dans ce que j'entreprends. Je veux me réaliser, je veux devenir plus riche, plus puissant, avoir plus de succès, d'argent, de respect, plus de paix, de bonheur, si je peux être plus efficace dans ce que je fais, pour faire encore un peu plus pour arriver à ça. Voilà un peu ce qu'on nous propose. Et la culture ambiante, elle me dit, ben, voici tes valeurs, tu t'appartiens à toi-même, réalise-toi. Regarde au-dedans de toi qui tu es et réalise qui tu es. Tu es la seule personne avec ce potentiel-là. Ta vie, c'est une collection d'expériences, de moments, et arrange-toi pour que ce soit efficace et le meilleur possible. Essaye d'augmenter la fréquence des bons moments, parce que plus tu en auras, plus tu seras content, plus tu seras heureux. En fait, c'est de l'hédonisme, c'est de la recherche du plaisir. Et moi, je me souviens d'une vieille chanson d'Henri Dès que peut-être les plus anciens d'entre vous ont entendu. C'était aux alentours des années 1970. J'avais quand même 20 ans à ce moment-là. Bon. Mais cette chanson, ce n'était pas encore les chansons pour les enfants. Ils faisaient des chansons. Ma vie, c'est la mienne. Ma vie, c'est la mienne. Ça vous dit quelque chose? J'ai essayé de la retrouver, mais je sais pas, il a dû l'effacer, celle-là. Même les paroles, je ne les ai pas retrouvées sur Internet. Pourtant, c'est à l'école qu'on apprend à faire les bêtises. Ça, il y a, hein, mais celle-là, je ne l'ai pas retrouvée. Ma vie, c'est la mienne. C'est moi qui suis au contrôle. Je veux m'organiser, gérer mon temps pour m'augmenter, pour m'améliorer moi-même. Mais dans la Bible, il y a d'autres valeurs qui sont proposées que celles de notre culture. Ma vie vraiment, qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Je te donne tout. À partir du moment où j'ai été racheté par le sang du Christ, ben, j'ai été racheté, j'appartiens à un autre, je ne m'appartiens plus. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés du péché et de la culpabilité, parce que nous avons été rachetés, nous n'appartenons plus au diable, nous appartenons au Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il nous invite à nous éclater, à nous réaliser? Non, il dit, suis-moi. Il nous invite à le suivre. Et il y a des paroles, quand même, dans l'Évangile qui sont assez claires, qui ne font pas toujours plaisir comme ça. Par exemple, Matthieu 16, 25 à 26, quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Votre vie est un sacrifice vivant, dit Romains 12, 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je ne m'appartiens plus, ma vie est au service de Dieu. J'ai reçu un bien, un cadeau, j'ai reçu cette vie, ce pardon, ce salut, et je suis invité à l'utiliser au service de Dieu, pour sa gloire. Autrement dit, si on cherche à être plus efficace, plus productif? Est-ce que c'est pour nous servir nous-mêmes ou pour servir Dieu? Peut-être que ça vaut la peine de bien gérer son temps pour mieux servir le Seigneur. Je suis chrétien, ma vie appartient au Christ, ce n'est plus la mienne, et je n'ai pas été racheté à bas prix. Jésus a donné son sang. Ce n'est pas bon marché. La grâce a un prix. La mort de Jésus. Alors, quand je comprends cela, qu'est-ce que je dois faire? À quoi est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu as posé la question à un moment donné. Je me suis dit, je répondrai quand je serai devant pour vous apporter le message. Eh bien, nous sommes invités à tout faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Toutes les choses qui ont été dites tout à l'heure quand Léa a posé la question, au fond, elles reviennent à glorifier Dieu. Dans 1 Pierre, on lit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ésaïe 43, 7. « Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait, c'est clair. » Romains 15, 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ça revient dans plein de passages. Éphésiens 2, 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, sous-entendu pour sa gloire. Ou encore Apocalypse 5, 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. 1 Chronique 16, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes, venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Et puis il y en a encore d'autres, 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Matthieu 5, 16. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc, c'est clair, hein, au fond, quel est le sens de notre vie? Où vais-je? Où cours-je? À quoi sers-je? Dans quelle étagère? Tu es là pour la gloire de Dieu. Que ta vie manifeste, reflète la gloire de Dieu. Que, bien, qu'au travers de toi, qu'au travers de moi, quelque chose de Dieu transparaisse aux yeux des autres. Alors, à quoi est-ce qu'il faut faire attention si on veut agir pour la gloire de Dieu? Tout d'abord, on a de sérieux avantages par rapport aux personnes qui n'ont pas la foi en Jésus. D'abord, nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Notre identité n'est pas dans ce que nous faisons, ni dans les tâches que nous accomplissons, mais en Christ. C'est lui qui nous donne notre identité. En lui, tout est accompli. Grâce à lui, nous pouvons prier, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec confiance. Nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons prier, comme dans le psaume 90:17, que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermi pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Donc, notre identité est en Christ. Nous savons pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui. Nous existons pour glorifier Dieu. C'est ça notre boussole. Et notre succès est garanti. Parce que nous dédions notre travail à Dieu, parce que nous lui faisons confiance pour établir nos plans. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Alors, peut-être que tout ne va pas aller impeccablement jusqu'au bout dans ce monde-ci, mais notre succès éternel, lui, il est promis. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 1 Jean 5. Et puis, Dieu nous donne des capacités. Il nous équipe. Il y a des dons qui nous viennent de lui. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la série sur les dons du Père, sur laquelle j'ai passé un certain nombre d'heures ici dans les enseignements il y a quelque temps, parce que vous pouvez retrouver ça sur Internet. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, il y a les dons du Père, les dons du Fils, qui sont les ministères dans l'Église, les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon objet de redévelopper tout cela, mais nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous ne sommes pas pareils, nous nous complétons en Église. Et ces dons, nous les avons reçus. Alors, à nous de les reconnaître, de les mettre en pratique, au service des autres. Ils ne sont pas là juste pour nous, les dons que nous avons reçus. Ce n'est pas des distinctions ou des médailles pour faire joli et pour nous dire qu'on est des personnes extraordinaires. Nous sommes des personnes extraordinaires, mais réalisons-le et vivons-le. Je cite 1 Pierre 4, 10 à 11, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc, je dois identifier les dons que j'ai reçus. Si j'ai l'impression d'avoir reçu tel don, ben, il faut essayer. Il faut l'expérimenter. Souvent, on ne sait pas avant d'avoir essayé. Et si on se rend compte qu'on s'est trompé, non, ce n'est pas celui-là, eh ben, c'est probablement qu'on en a un autre. Essayons encore. Et puis, soyons attentifs à ce que les autres nous disent de nous-mêmes. Toi, tu es doué pour ça. Toi, je trouve que tu es bon dans telle et telle chose. C'est des signes qu'il faut bien recevoir. Voilà un don que j'ai reçu. Et puis, prier pour que le Seigneur nous éclaire à ce sujet. Et puis, chercher des occasions de les utiliser, ces dons. Ben, dans l'Église, dans notre voisinage, dans la famille, au travail. Si vous êtes doué pour diriger, cherchez une occasion d'exercer ce don. On cherche quelqu'un pour présider telle chose, ben, proposez-vous, par exemple. Si c'est l'exhortation, commencez tout de suite à encourager les gens autour de vous. Il faut être proactif en la matière et exploiter ces avantages magnifiques que nous avons par rapport aux incroyants, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir glorifier Dieu. Et puis, à partir du moment où on voit mieux quels sont nos dons, eh bien, on voit mieux aussi comment diriger nos efforts, comment choisir un travail peut-être, comment, à la limite, choisir aussi un domicile. Et il y a dans la parole de Dieu une parabole que j'aimerais qu'on lise pour encore clarifier certaines choses, c'est la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30. Je vous la lis, je ne sais pas si tu peux la projeter. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Je reviendrai sur la question sac d'argent, talent dans un instant. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. S'il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La fin de cette parabole me glace. Non, c'est dur. Ça ne correspond pas du tout au sens de la justice que j'ai, par ailleurs, parce que spontanément, moi je ferais comme le dernier. Voilà. Pas bringuer, on va sécuriser la chose, puis assurer un minimum, et pas plus. Et là, ça ne marche pas. Un talent, ce n'est pas forcément... Le terme grec « talentum » ne désigne pas un don ou une aptitude, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais le plateau d'une balance. Et donc, un talent, c'est une somme d'argent qui pèse. C'est entre 20 et 36 kilos, on ne sait pas très bien. Donc c'est considérable. Ce n'est pas juste une piécette. Hein. Et c'est pour ça que dans des traductions plus modernes, on a des sacs d'argent ou des lingots ou des choses comme ça, pour bien souligner ce point-là. Ce que j'observe, c'est que tous, les 3 serviteurs n'ont pas reçu la même quantité. Chacun doit gérer ce qu'il a reçu. Le maître leur confie ses biens, et c'est à chacun selon sa capacité. C'est souligné dans le texte, à chacun selon sa capacité. Le serviteur doit simplement être fidèle avec ce qui lui a été confié. Ce que vous avez reçu comme don correspond à ce que vous êtes capable de gérer. Et puis, le maître ne dit pas non plus aux serviteurs comment ils doivent investir leur talent. Il ne donne pas d'instructions. C'est aux serviteurs qu'il appartient de trouver comment, à eux d'être proactifs, créatifs en la matière, et les bons serviteurs choisissent eux-mêmes et prient à ce sujet pour voir comment ils vont s'y prendre afin de glorifier leur maître, de glorifier Dieu du mieux qu'ils peuvent. Avec humilité, celui qui est rejeté à la fin, c'est celui qui n'a pas été créatif, qui n'a pris aucun risque, qui a enterré son trésor, qui a manqué de foi. Et donc le service, ça ne consiste pas à jouer la sécurité, mais à prendre ses responsabilités, à agir en conséquence, sans arrogance. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Proverbe 16:9. Et puis il y a ce fameux passage aussi dans les Proverbes, Proverbe 6, à propos de la fourmi. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage, elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Donc personne ne dit à la fourmi ce qu'elle doit faire, mais elle prend ses responsabilités, pas comme le paresseux. Enfin, dans tout cela, il y a quand même cette indication que nous devons rendre des comptes à Dieu, comme les serviteurs du maître de la parabole, et puis que ce que nous aurons fait, notre travail, notre engagement, mérite une récompense si ce travail est bien accompli. Alors, comment s'y prendre, comment faire? Et là, j'ai trouvé un bout de réponse dans un livre sur la productivité, mais écrit par un chrétien. C'est un Américain, il s'appelle Regan Rose, Monsieur Rose. Bon, c'est un pasteur, il a une quarantaine d'années, il fait des vidéos sur Internet. Il a sa petite entreprise, ça s'appelle Redeeming Productivity. Bon. Et dans cette parabole des talents, il souligne ce que dit le maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Et si je devais donner un titre à ce message, je dirais « Fidèle en peu de choses ». Qu'est-ce que j'aimerais que le Seigneur me dise au jour du jugement ? Tu as été fidèle en peu de choses. C'est quoi ce peu de choses en quoi j'ai été fidèle ? Pour que le Seigneur me dise « C'est bien ». Bon et fidèle serviteur. Puis, quels sont les domaines dans lesquels on pourrait avoir des comptes à rendre ? Il y a le domaine spirituel, ma vie de prière, mon engagement envers le Seigneur ou dans l'Église. Il y a mes relations dans la famille, avec ma femme, mes enfants, avec les amis, les proches, etc. Il y a, par rapport à mon appel ou ma vocation, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'exerce effectivement le don qui m'a été donné et que je suis appelé à exercer ? La question du corps, de la santé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je le néglige ? Est-ce que je l'entretiens correctement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais les finances ? Il est tout le temps question d'argent dans la Bible. Les talents, c'est justement encore des sommes d'argent. Mes loisirs. Est-ce que dans mes loisirs, j'ai, comme dans tous ces autres domaines, le souci de la gloire de Dieu ? Ou bien est-ce que, non, peut-être pas là, je garde des domaines. Mes lectures. Le développement de mes connaissances, ça fait un certain nombre de domaines comme ça qui font ma vie, qui font votre vie. Et je crois qu'on est invité à réfléchir à la manière dont on agit, à la manière dont on gère notre vie. Est-ce que ce que je le fais pour la gloire de Dieu ? Est-ce que la gloire de Dieu est prise en compte dans mes engagements ? Alors, il y a peut-être des choses qui sont neutres par rapport à la question de la gloire de Dieu. Si je bois du café, peu importe la marque, hein, je veux dire, et je peux boire du café ou du thé, etc. Ça, c'est pas tellement important. Mais me poser la question, est-ce que ma vie, dans ma vie, j'ai le souci de la gloire de Dieu dans tel et tel domaine, dans mes finances, dans ma vie de prière, dans mes relations avec les autres, dans mes loisirs. Et j'ai, par rapport à ces domaines, j'ai regardé ce que dit ce Regan Rose, et puis il donne un exemple qui vaut pour lui. Hein? Il a écrit il appelle ça « well done statement », il a écrit la liste des choses qu'il a bien faites où le Seigneur pourrait lui dire, il espère que le Seigneur lui dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en marchant chaque jour avec moi, en lisant ma parole, en me cherchant dans la prière. Tu as été fidèle avec ta famille, aimant ta femme comme j'ai aimé mon église, en élevant tes enfants dans la sagesse et dans mes instructions. Tu as été fidèle à mon appel en aidant mes frères et sœurs à devenir des serviteurs plus fidèles pour la gloire de mon Père. Tu as été fidèle avec ta santé, en prenant soin de ton corps, le temple du Saint-Esprit, en mangeant sainement, en faisant régulièrement de l'exercice. Tu as été fidèle dans tes finances, en ne faisant pas de dépenses stupides et en ne considérant pas mon argent comme si c'était le tien, mais en l'utilisant pour prendre soin de ta famille, en donnant à mon Église et en pourvoyant aux besoins des autres. Et tu as été fidèle dans tes loisirs, en tenant compte de ton besoin de repos, toi, créature finie, en prenant du temps pour jouir de ma création, en mangeant et buvant à ma gloire. Parce que tu as été fidèle dans ces petites choses, je vais t'en confier de plus grandes, entre dans la joie de ton maître. Voilà, c'est un exemple, on peut s'en inspirer aussi pour se poser les questions et se situer, se projeter vers le moment du jugement, en quoi vais-je être fidèle, en quoi aurais-je été fidèle, quelles sont les peu de choses dans lesquelles je vais engager ma fidélité à Dieu. Et le pire serait de ne rien faire, par crainte de faire mal. Il vaut mieux faire et pas bien réussir que de ne rien faire, ou trop peu. Ne pas être tiède non plus là-dedans. Les mauvais serviteurs, ils finissent mal. À celui qui n'a pas, on ôte même ce qu'il a. Et le serviteur inutile est jeté dans les ténèbres du dehors. Quand le maître dit « Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître », ce ne sont pas des vacances non plus qui commencent. Je t'établirai sur beaucoup. Tu as pu faire ça ? Ah ben, je vais encore t'en donner plus. Je sais que je peux te faire confiance et que tu seras capable de gérer beaucoup dans mon royaume. Et dans Luc, la parabole parallèle, c'est la parabole des mines, à celui qui, au serviteur fidèle, à celui qui a reçu le plus, il dit « Reçois le gouvernement de 10 villes, parce qu'il a reçu 10 mines ». Puis celui qui en a reçu 5 reçoit le gouvernement de 5 villes. Vous voyez, dans la nouvelle création, on ne sera pas sans rien faire. Je crois que si vous pensez vous reposer en chantant des hymnes, il n'y aura peut-être pas que cet aspect-là dans l'éternité. Mais voilà, moi je vous laisse quand même avec ce verset, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Que nous puissions tous entrer dans la joie de notre maître le moment venu. Amen.